Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 24e. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Baute, notre invité du jour, directeur général délégué de l'Indépendant, qu'on va retrouver tout à l'heure dans une troisième partie, comme il est de coutume dans cette émission Contre-regard. Le sommaire d'aujourd'hui, les contre-regards d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, Michel, faut-il se réjouir que la France soit sous les 3% de déficit public? Une question que tu poses et probablement un contre-regard parce qu'on serait oui. tenté de dire oui de prime
Forcément.
Abord. Bon. Après, un contre-regard aussi sur l'université, enfin certaines universités, et son orthographe, et pas que son orthographe d'ailleurs, son comportement aussi, il faudra expliquer un petit peu plus. Dans une deuxième partie, on va se pencher sur alors la SNCF à notre façon, les petites lignes de la région Occitanie, notamment celles dont beaucoup sont fermées et sont entrées dans l'histoire depuis longtemps. Et on terminera par ce titre animalier, les dindons de la farce peuvent glouglouter, en tout cas à nouveau, à Marcorignan et ailleurs. Alors tout d'abord, cette histoire de déficit, un petit mot d'explication quand même, que c'est pas
oui.
évident pour tout le monde.
Nos auditeurs ne le savent pas ou alors ils l'ont oublié, et surtout en ce moment où leur préoccupation et leur intérêt portent plutôt sur ce qui se passe, hein, notamment à la SNCF et toutes les perturbations que cette grève largement suivie, perlée, hein, produit, notamment pour les usagers qui ont l'habitude de prendre le train.
Oui, alors, donc cette information... Bien heureux les non-usagers.
Exactement, comme nous, en fait, Jean-Claude, il faut,
oui,
bien, il faut
oui,
bien le dire.
Oui, disons-le.
Donc, grand cocorico, il y a quelque temps de cela, en fait, je crois une quinzaine de jours, de Bruno Le Maire, qui est notre ministre en charge du budget, en fait, notamment, et qui annonce que la France, enfin, pour la première fois depuis fort longtemps, était en dessous, en fait, des 3% de déficit.
Était
public.
au-dessus.
Donc, qui, pour la première fois.
Ah
fait,
oui, pour la première
qui,
fois.
Pour la première fois.
On
en
va respecter,
2017,
en fait, on va respecter.
Hein, était en dessous, fait, de la norme, en fait, imposée.
C'est-à-dire
par
qu'on
la
respecte
commission,
la norme.
Exactement. Des 3% de déficit public. Bruno Le Maire ayant annoncé qu'en 2017, nous étions à 2,7% de déficit public, la norme dite de Maastricht,
oui.
que tous les pays, entre parenthèses, de l'Union européenne respectent.
Sont censés respecter, oui.
Sauf la France. Mm-hmm. Hein, sauf la France. Et donc, cocorico, etc. Oui, bien. Sauf que cette performance, si je puis dire, est tout à fait relative. Car dans le même temps où ce déficit baissait, et donc 2,7. Les dépenses
c'est
publiques.
C'est le déficit du budget de l'État.
Le budget de l'État, bien entendu. Le budget de l'État, quand on dit budget de l'État, c'est budget des administrations publiques, c'est-à-dire État plus collectivité locale.
Oui. Hein.
Sauf que, en même temps, si je puis dire, augmente le montant des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la somme des impôts que les Français...
Oui, on est à 45% et quelques, je crois.
C'est ça. On est exactement, bon, à... voyons voir. Le poids des recettes faites dans le public et dans le PIB est passé de 53 à 50,9%. Là, je parle effectivement des impôts. Des recettes,
l'imposition.
Mais, ouais. 53, ce qui, entre parenthèses, là aussi, est un record mondial.
Oui.
Nous avons aussi un autre record mondial qui est le montant, parce que lui aussi, il a augmenté, hein, des dépenses publiques. Hein, 1292 milliards d'euros. Hein. Donc ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire que certes, effectivement, ton déficit a baissé, mais que contrairement à ce qui avait été prévu et qui avait été, comment dirais-je, posé en fait, comme politique par les gouvernements précédents, notamment celui qui avait exercé en 2017, c'est pas les dépenses publiques, la variable d'ajustement qui a permis cette baisse, mais l'augmentation des prélèvements. Donc, voilà, donc conclusion.
Donc on n'arrivera jamais à faire des économies.
Conclusion, ce qui est affirmé depuis des années, à savoir que il faut à toute force baisser les dépenses publiques pour baisser le taux de déficit public de l'État, hein, c'est loin d'être démontré. Au contraire, en fait, encore une fois, hein, les dépenses publiques ont été augmentées au détriment des prélèvements obligatoires, donc des recettes fiscales. Mmh. Ce qui veut dire qu'in fine, hein, ce sont les impôts des Français qui ont, encore une fois, financé cette diminution des déficits, du déficit public et l'augmentation parallèle de son endettement. Mmh. Conclusion, loin de se réjouir de cette performance
dans ces conditions,
comme Monsieur le maire en fait, l'a fait, il faut au contraire être inquiet si cette tendance perdurait, car cela voudrait dire qu'effectivement nous sommes dans l'incapacité structurelle de diminuer nos dépenses publiques, qui sont effectivement le montant des dépenses publiques, la seule variable qui puisse permettre effectivement à la fois de baisser le déficit public, de maintenir le pouvoir d'achat des Français en diminuant ou en maintenant les recettes fiscales et surtout en maintenant et en diminuant si possible l'endettement public qui est quand même, il faut le rappeler ici, plus de 30 000 euros par Français, bébé compris.
Oui, bébé compris, il faut le préciser. Donc le nouveau-né, quand il naît, il sait déjà qu'il a 30 000 euros sur le dos.
Exactement.
Ouais. Alors finalement, donc pour résumer, le déficit du budget de la France diminue légèrement, mais alors le déficit chez les gens, chez les contribuables, ça serait plutôt l'effet inverse. Quoi.
Exactement. Il augmente. Exactement. C'est donc, qu'une politique de
c'est un tour de passe-passe.
C'est un tour de passe-passe. Alors statistiquement,
bien sûr, ça fait joli.
C'est l'objet de mon contre-regard. Hein. Statistiquement, ça fait joli. Effectivement, pour la première fois depuis de très nombreuses années. Nous respectons enfin le critère de Maastricht de 3% de déficit public, sauf que, effectivement, c'est pas par la diminution des dépenses, comme tout bon Français, dans la gestion de son ménage, pourrait effectivement le faire, mais par l'augmentation, effectivement, des recettes fiscales.
Alors, malheureusement, pour une fois qu'on est vertueux, on ne l'est qu'à demi.
On ne peut pas non plus dire, mais quand même. Mais quand même, le message, attention, en fait, à la présentation des infos quand elles sont présentées de cette manière, et comme toujours ici, regardez de plus près, faites sous le tapis ce qu'elles cachent en réalité.
Voilà. Alors un petit mot sur certaines de nos universités et certains de nos étudiants, puisque là encore, alors 50 ans après mai 68, il y en a qui rêvent apparemment de remettre ça.
Oui, alors ce qui m'a frappé, deux petites choses, ce qui m'a frappé, alors évidemment on pourrait considérer cela comme anecdotique, mais je le place sur un plan un peu plus général, qui est l'état dans lequel se trouve notre langue française, si je puis dire, et la manière dont elle est usitée par notamment nos futures élites, entre guillemets, celles qui fréquentent les universités de notre beau pays, hein, et qui, notamment à travers une organisation représentative, de moins en moins d'ailleurs, de ces étudiants en colère et en grève, pas dans toutes les universités, mais dans certains sites, je parle de l'UNEF, hein, qui est la petite...
L'Union nationale des étudiants de France, la pépinière
d'entreprise, si je puis dire, qui forme et qui sélectionne les futurs cadres de certains partis de gauche. Donc,
oui, tu as raison de le préciser, c'est quand même une pépinière de futurs carriéristes de gauche.
Cela dit, bon, j'ai rien en soi, hein, contre ce genre de mode de sélection. En fait, après tout, d'autres partis, certainement à droite, utilisent les mêmes filières pour sélectionner leurs propres élites. Mais passons, restons-en à l'UNEF, qui a sorti un dossier de presse il n'y a pas très longtemps, là, ben, juste pendant cette période-ci, fait, où les étudiants bouillonnent dans certains sites, un dossier de presse qui a retenu l'attention d'un hebdomadaire bien connu.
Du Canard Enchaîné notamment, et peut-être pas seulement.
Et qui a fait l'analyse de ce dossier de presse et qui a trouvé une quantité de fautes d'orthographe.
Mais lamentable, absolument.
De ponctuation, de faute de grammaire absolument.
De faute de logique.
Incroyable, ouais. Incroyable, qui effectivement donne une idée de, comment dirais-je, de l'état dans lequel se trouve, grammaticalement et lexicographiquement, si je puis dire, nos étudiants en grève, en lutte, et les futures élites de certains partis politiques de gauche. Et à cela, figure-toi, Jean-Claude, s'ajoute en fait des prétentions poétiques qui rappellent en fait une certaine époque, je pense à celle de mai 68, hein, et notamment dans l'université de Paris 8 qui est à Saint-Denis, où circule sur les réseaux sociaux ce qui est écrit sur certains murs, je cite,
hein, des bons graffitis,
tu apprécieras le rythme en fait de ces phrases. Frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic mort. Ça sonne bien, quoi. Ouais, c'est rimé, rythmé. Ouais. Donc,
et mais alors, enfin, ça fait froid dans le dos quand même.
Ça fait froid dans le dos. Alors, d'autant que je prends cette photo, en fait, et cette phrase, je la mets sur ma page Facebook, et parmi les réactions nombreuses critiques, hein, évidemment, lisant cette phrase, un ami journaliste me répond, si je puis dire, en citant Brassens, hein, en voyant ces braves Pandore être à deux doigts de succomber. Moi, je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée.
Voilà, ça, c'est une chanson de Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est de la grosse farce.
Sauf que mon ami journaliste me dit, mais oui, ça prouve bien quand même que la relativité des choses et des propos. Alors, sauf que je lui ai répondu, mais quand même, quoi, hein, nous sommes dans une époque et un contexte en particulier qui devrait amener en fait nos étudiants et nos futures élites en question un peu plus de retenue, que je sache quand même en fait où l'ont complètement oublié les Pandore en question, en fait les gendarmes en question ou les flics en question, il y en a quelques-uns au cimetière, que dans un contexte très particulier dans notre pays mais comme ailleurs, où avec d'autres civils ils se sont fait tout simplement en fait fusiller, en fait assassiner par des terroristes. Récemment dans notre région à Trèbes, un colonel lui s'est sacrifié pour justement préserver la vie d'un otage. Donc, dans ce contexte-là, mon cher ami journaliste, mettre en rapport cette phrase,
c'est un peu
frapper
osé.
Vite, frapper fort, un bon flic est un flic mort.
Avec une chanson des années 50. Comparer
cette
de
phrase
Georges
avec,
Brassens,
années, ouais. avec une chansonnette de, une chanson de Georges Brassens des années 50, c'est quand même un peu raide.
Voilà, c'est un peu fort de café et on marque une première pause pour réfléchir à tout cela.